Bonjour et bienvenue au MMA Club, le podcast BD bimensuel qui a 50 km de câbles et 2 ans. Bonsoir et bienvenue au One Eye Club. Nous fêtons nos 2 ans. Je suis accompagné de Thio, mon fidèle camarade. Je suis One Eye Pied. Nous avons avec nous Monsieur Internet, aussi prénommé Isaac, car il nous fait de fameux cocktails.
Absolument, monsieur Dan, absolument.
Voilà. Et nous allons faire notre premier live. Donc ça fait deux ans qu'on s'est donné, enfin que j'ai eu cette bête idée de te dire, hey, si on enregistrait nos discussions sur la BD.
C'est ça.
Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Première fois qu'on fait un live. En fait, c'est vachement plus compliqué que ce que je croyais. Ça a l'air vachement simple quand c'est quand c'est l'apéro du Captain Web ou le rendez-vous tech qui font ça. Je voudrais commencer par remercier déjà tous ceux qui sont là. Vous êtes 19 dans la chatroom. Ce qui est quand même vachement pas mal. Bon, disons que, allez, si on est 6 d'entre nous qui sommes dessus, ça veut dire qu'il y a 13 personnes qui sont là pour nous écouter, et moi ça me fait vachement plaisir. Bravo. Voilà. Je voudrais commencer par remercier Patrick Béja, parce qu'en fait c'est lui qui m'a donné envie de commencer les podcasts. Et donc je pense que sans le rendez-vous tech, ce podcast n'existerait pas. Et puis aussi, Michel Drucker,
oui, à qui on doit tout.
À qui on doit tout.
En télévision, en radio, va toujours.
Parler dans un micro, on doit tout à Michel Drucker. Et puis aussi, je voudrais remercier les éditeurs qui quand même nous ont fait confiance. Il y a des éditeurs qui nous font confiance, qui nous envoient des trucs, ça me fait vachement plaisir. Donc on a Bac à BD, on a Futuropolis, on a Fluide Glacial et on a Bambou Grand Angle. Donc merci à vous, franchement, vous nous donnez un grand coup de main pour réussir à proposer des émissions de plus en plus complètes.
Et variées.
Et variées, ouais, surtout. Merci à nos partenaires qui nous diffusent. Donc il y a Bad Geek, il y a, attention la dernière fois je me suis planté, il y a Pod Radio, ouais c'est bon. Nous sommes aussi chez Bully Onomatopée, merci, coucou à Ginny. Et nous sommes aussi chez BDO depuis peu avec Merton qui vient de nous rejoindre pour faire des news avec nous. Et bientôt nous allons avoir des choses prévues un peu sur le podcast qui vont venir, un nouvel intervenant, ce n'est pas Isaac, qui pourtant serait pas mal, mais il, je sais pas, il lit toutes nos BD, il pourrait, ouais, non, il fait que les cocktails.
Ouais. Non, je peux faire d'autres trucs que les
il peut faire d'autres trucs, on verra. Nous sommes donc ce soir en compagnie de nos auditeurs qui sont là pour parler de bande dessinée. En fait, on a décidé de rendre cette émission plus intéressante que les nôtres en faisant parler d'autres personnes. Et nous avons donc Upgrade qui va nous parler des Maîtres de l'Évasion, Sachet qui va nous parler de Apocalypse sur Carson City, Merton qui va nous parler de Skins Party, Philippe qui va nous parler de Lorenza, Thio et Mathieu qui va nous parler de Black Lagoon. On a du manga, du comic, de la BD franco-belge comme on dit, un programme super varié et nous on va vous parler de trucs. De trucs.
Tiens, je te passe ton truc.
Ah là là, c'est un truc. Bah alors, il me le passe maintenant. Je suis censé l'avoir lu pour aujourd'hui. Ça va être galère. Il y a du rhum dessus. Ça ne va l'air que meilleur. On va commencer par dire bonjour à Laurent. Upgrade. Bonjour, Upgrade.
Bonjour. Merci de m'inviter.
Bah, ça nous fait
très content d'être là.
Ça nous fait très très plaisir que tu sois là. Et ben, si tu peux nous parler un peu de Les Maîtres de l'Évasion. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un comic que j'ai particulièrement apprécié. C'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est une forme d'hommage, en fait, à tout l'art du comics, au 9e art dans l'ensemble. Donc c'est l'histoire de Max, un habitant de Cleveland qui vient de perdre son père et qui tombe sur la collection qu'il a constituée d'un vieux personnage des années 30, l'escapiste, le maître de l'évasion. Et il décide à partir de ça de faire revivre ce personnage. Donc il a ce projet de perpétuer un petit peu la passion de son père. Et il tombe par hasard un petit peu sur deux personnes, donc une personne qui peut dessiner de façon admirable, et un lettreur, donc son ami, qui avec lui, avec eux, donc vont perpétuer, vont essayer de sortir un comics qui reprend le personnage d'origine des années 30, mais en le modernisant.
Okay.
Alors, on peut distinguer trois parties en fait dans le graphisme. Il y a une partie qui est dessinée par Eduardo Barreto,
ouais.
qui dessine en fait toute la partie Golden Age en fait en quadricromie. On a aussi Jason Chen Alexander qui a fait AB Sapiens, qui fait les dessins de la partie actuelle de l'escapiste, et Steve Olson en fait qui s'occupe de l'histoire principale axée sur les personnages de Max et de ses amis. Donc c'est vraiment une histoire en forme d'hommage à tous les maîtres en fait de 9e art. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est appelé les maîtres de l'évasion. C'est un peu en référence à tout ce que ont pu apporter ces gens-là, faire évader un petit peu les gens dans des histoires un peu super héroïques, etc. Quoi.
C'est basé sur un roman, c'est ça, qui avait gagné le Pulitzer, il me semble, de,
oui,
Michael,
fait,
de Michael Chabon. C'est ça, Chabon ou Chambon, je sais plus.
C'était Michael Chabon, c'est Les Aventures de Cavalier and Clay. Donc en fait, qui raconte.
Attends, il y a quelqu'un qui est en train de se foutre de ma gueule parce que j'ai entendu parler de cette BD et que je peux te citer un prix Pulitzer. Merci, tu vois.
Non, mais attends, là,
je... Pulitzer, bien.
Avec Isaac, on est là, on est soufflé, quoi. Le mec, ouais, non, ouais, je crois que ça a gagné un Pulitzer, Michael Chabon.
Ah non, mais il s'est renseigné un petit peu avant de préparer l'émission, je pense.
Bah, lui, oui. Lui, oui, enfin, parce que lui, c'est lui qui a envoyé les mails de préparation. Et moi, je sais pas lui.
C'est ça. Non, et puis en fait, j'en avais déjà entendu parler, c'est une BD qui me faisait déjà pas mal d'œil.
Alors il paraît que quand même ça vaut le coup de lire le roman de Chabon, parce que ça permet peut-être aussi de voir un petit peu toutes les subtilités du comic. Moi j'ai pas encore l'occasion de le lire, mais je vais me précipiter dessus, je pense, parce que en préparant l'émission en fait j'ai relu une deuxième fois Les Maîtres de l'Évasion. Je l'ai lu avec autant de plaisir que la première fois, peut-être même plus, parce que il y a des détails qui sautent plus aux yeux.
Le comic raconte vraiment le côté super-héroïque, ou il raconte la genèse du super-héros, enfin de la BD?
Alors en fait, c'est plus centré sur le personnage de Max, qui est le fil conducteur en fait de toute l'histoire. Donc il y a comme en forme de flashback les passages d'Eduardo Barreto, Golden Age, qui reprend le personnage, mais qui prend des dialogues de Max en fait. C'est à chaque fois des mises en situation de sa vie dans le comics en fait. Sa vie est influencée dans le comics, et l'histoire vraiment est centrée par rapport à ça, quoi.
Donc
il n'y a pas vraiment...
Vas-y,
pardon.
Non, je disais, c'est un petit peu comme dans le Watchmen en fait, avec la bande dessinée sur les pirates en plein milieu.
Oui, on peut donner ça comme référence, effectivement, sauf que ça n'a pas partie intégrante dans Watchmen, dans l'histoire principale, tandis que là, effectivement, il y a des similitudes entre ce qui se passe dans le comics passé ou présent, et la vie des protagonistes principaux.
Ok, parce que voilà, moi il me semble que le bouquin, j'en avais pas mal entendu parler, parce qu'en gros, il racontait une sorte de réécriture de l'histoire de Jerry Siegel et Joe Shuster. Donc les créateurs de Superman, de ces jeunes juifs qui essayaient de s'en sortir à New York et qui inventaient des bandes dessinées, qui faisaient un travail qui était un travail.
D'après ce que j'ai compris, c'était le thème principal de Cavalier and Clay, le roman de Michael Chabon.
D'accord.
Donc c'est repris dans le comics forcément.
Ok. Est-ce que tu as fait tes devoirs? As-tu trouvé des mots pour le genre?
Alors le genre, j'ai mis tant de hommages, parce que vraiment c'est ce qui transparaît du comic, c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est l'hommage au 9e art, l'hommage au maître scénariste, au maître dessinateur. Donc c'est vraiment ce qui domine, à mon avis c'est l'objectif du livre, c'est quasi avoué dans le bouquin, c'est une déclaration d'amour au genre, quoi.
D'accord. Le dessin.
Le dessin est, j'ai noté inégal mais approprié. Parce que toute la partie récente de Sean Alexander est sublime. C'est comme je disais le dessinateur qui a fait Abbé Sapiens avec Mignola. Oui. Bon, c'est de la peinture, c'est magnifique. La partie de Rolston et Bond aussi qui l'a secondé dans la deuxième partie est beaucoup plus, je dirais, simple et courante, mais quand même, ça s'intègre très bien dans l'histoire. Il n'y a pas besoin d'en faire trop sur ces passages-là. Ça s'intègre très bien, c'est approprié. Et Barreto, c'est juste. C'est juste des frissons à chaque fois que je vois une planche de lui, ça me rappelle les années étranges, ça me rappelle énormément de choses. Donc,
je pense au papier jauni des vieux étranges.
De la quadricomie, c'est
ouais,
pas trop mal aux yeux ou...
Pardon, non, c'est très bien intégré. En plus, c'est très succinct dans le bouquin. On retrouve peut-être 6 pages en tout, si je ne me trompe pas, de Barreto. Donc c'est vraiment des petites pointes qui sont juste au bon endroit, appropriées.
Ce qui aurait été cool, c'est qu'ils arrivent à avoir le même papier pour ces passages-là qu'on avait à l'époque.
Je suis d'accord avec
ce papier l'odeur. Bien pourrave, avec l'odeur qui jaunit super vite. Et le scénario, Témour ?
Je l'ai déjà dit, ouais, ah il me semble. Hein. Le temps d'hommage, non ?
Temps d'hommage. Ah non, c'était le genre que je t'avais demandé au début.
Ah, le genre, excuse-moi.
Oh, c'est pas grave. Excuse-moi.
Ouais, le genre c'est du graphic novel dans l'ensemble, quoi. Enfin,
ouais.
Moi, je le considère comme tel.
C'est le genre de truc qui peuvent plaire aux gens qui s'intéressent aux super-héros sans forcément s'intéresser à leur histoire, ou faut vraiment être...
Ah, complètement, même si c'est pas du tout une histoire de super-héros. Alors, il y a un petit côté qui casse, parfois, dans le bon sens du terme. parce qu'en fait, sans trop dévoiler, Max, pour essayer de se faire un peu de promo, va avec son ami qui est quand même assez baraqué, le mettre en avant, le mettre dans des situations pour essayer de se faire un coup de pub sur un sauvetage un peu foireux. Et donc il y a ce côté super-héros dans la vie réelle. Qui fait penser un petit peu à Kick-Ass, mais en beaucoup moins vulgaire.
Oui, moins vulgaire, je crois que ouais, ça a l'air quand même d'avoir un ton vachement plus cool. C'était sorti chez qui ? C'était chez...
Ah, c'est du Delcourt.
Delcourt,
c'est du Dark Horse Comics à l'origine.
Ok, tu sais si c'est encore trouvable ?
Oui, parce que ça n'a pas eu un succès phénoménal, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est dommage, hein, parce que bon, j'ai regardé un petit peu sur tous les sites spécialisés, bon, dans les commentaires, etc., mis à part la mauvaise foi assumée, il n'y a que des 4-5 étoiles sur du Amazon ou du BDGest. Donc c'est quelque chose qui a été bien accueilli par le public comicophile, mais... par le grand public, un petit peu boudé, parce que c'est un peu pointu quand même.
Ok, et eh bien, merci beaucoup.
Moi.
Tu as d'autres choses à rajouter, Thio ?
Tu l'embauches à ma place, non ou pas ?
Ouais, je pourrais, c'est vrai, ça. Parce que à quoi tu sers, franchement ?
À rien.
Ok, est-ce que tu veux que est-ce que tu as un site, un endroit où tu sévis sur Internet, où tu...
Pas encore, c'est en projet, on va dire, loin dans mon cerveau, parce que j'ai beaucoup d'occupations à côté, donc j'ai pas encore trouvé le temps pour vraiment finaliser ça, mais on sait jamais, vous serez les premiers prévenus.
Ok, on peut te trouver sur Twitter, ton compte c'est _UP_grade.
Exactement, ouais.
Exactement.
C'était déjà pris en grade.
Ouais, c'est mon anglais un peu commun, on trouve un petit peu que ça très facilement. Ben, merci beaucoup encore et nous allons...
C'est moi. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Sachez pour la suite, je vais essayer de faire un truc de malade, c'est-à-dire ça. Je viens d'envoyer un jingle en live. C'est un truc de malade. D'habitude, on met des jingles au montage, donc autant vous dire que on n'est pas du tout dans les conditions du live. Normalement, vous allez avoir un nombre de E à la minute phénoménal comparé à d'habitude. Non. T'as dit E non, pour commencer, déjà, bah, foiré.
Non, on fait pas les chroniques.
C'est vrai, on fait pas les chroniques. De E. Oui, c'est vrai, on en fait moins. On va demander à Sachet de nous rejoindre. Bonsoir, ouais. Sachet.
Bonsoir.
Tu vas nous parler de Apocalypse sur Carson City, qui est chez Aquileos, si je ne me trompe pas.
Voilà, tout à fait, et qui est totalement terrible. Mmh, alors,
ça donne envie, ouais, comme ça.
Ouais. Donc, l'histoire, en gros, ça se passe au Nevada, dans la zone 51. Il y a le général Matthews qui découvre des expériences macabres du docteur Phobie qui tente de trouver un remède à la mort. Bon, bien sûr, il y arrive.
Ouais. Et, il y arrive. Ouais, ils sont trop forts dans la zone 51. Forcément.
Et donc, mais tout se passe pas bien, forcément. Donc, près de cette zone. Ah là, normal. Près de cette zone, à Carson City, il y a les frères Blackwood qui sont un gang de trois frangins, braqueurs de banque et tueurs en série, qui s'apprêtent à réaliser un casse.
Ils étaient pas quatre avant ? Pourquoi ?
Bah, les Dalton.
Pourquoi ? Ah, les Dalton, oui. D'accord.
Ouais.
Bah, d'accord, ok. Bravo, bravo, ouais.
Les blagues à la Thio, quoi.
Je l'aime pas trop celui-là en fait. Je sais pas pourquoi c'est la chronique suivante.
Non, 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 il est très bien, il est très sympa, je l'aime beaucoup.
Là, voilà. Tu perds ton boulot là, tout de suite là, tu perds ton boulot.
Donc, les frères Blackwood, les trois frères Blackwood, sont pris en chasse par le shérif B. Justice. Et au même moment, un camion des militaires qui transportait justement les produits de Dr. Phobic se crache à Carson City, dans Crystal Lake, et déverse le produit qui réanime les morts dans le bled.
C'est pas de bol, quoi.
C'est complètement barré, comme ça.
Voilà, ouais, mais c'est un hommage parfait à toutes les séries B, tout ce qui s'est fait dans les années 80-90.
C'est The Toxic Avenger. Ouais. Ah, si on allait jouer sur la décharge de produits radioactifs, ouais.
Voilà, ouais, mais c'est exactement ça, et c'est poussé à l'extrême, et il y a tous les codes sont dedans, enfin, c'est vraiment parfait, quoi.
Alors, les auteurs, c'est qui? Parce que c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler, j'avais vu les dessins vaguement, ça m'avait pas...
Alors, les auteurs, c'est juste Griffon, c'est son premier scénario, mais c'est sa deuxième BD en tant que dessinateur. Il avait fait Billy Wilde.
Ouais.
Ouais, voilà, c'était sa première BD en tant que dessinateur. Là, il s'occupe aussi du scénario. Donc, au niveau des dessins, c'est tout aussi bon que Billy Wilde. On voit bien le passé de Griffon qui a été, il a été caricaturiste dans les Disneyland aux États-Unis. Donc, ça se voit bien dans les dessins. C'est des petits corps avec des têtes énormes, hyper caricaturales. Mais c'est super bien fait, quoi.
C'est de la BD américaine, Griffon.
Non, il est français, mais il a bossé aux États-Unis. Enfin voilà, il s'est fait la main dans les Disneyland, quoi. Ouais.
Ok, tu as utilisé des mots pour définir un peu le genre déjà.
Oui, donc pour moi c'est une parodie amoureuse, on va dire. Et, bon, c'est assez con comme mot, mais
on en a fait des pires. Hein.
Bien le truc, quoi. On voit qu'il est vraiment amoureux de ce genre-là. Il connaît absolument tout ce qui s'est fait, ou quasi, et il recrache tout dans une BD, quoi. C'est vraiment très juste, quoi. C'est vraiment très très bon, quoi.
D'accord. Le dessin.
Ouais. Donc pour le dessin, j'ai mis caricatural et fouillé. Parce que les décors sont hyper bien faits, c'est vraiment très pointu, c'est très bien fait. Et en même temps, les personnages sont caricaturaux, quoi.
Ça avait l'air d'être un style graphique super, enfin, plein de noir, bien tranché. C'est du noir et blanc, couleur.
Ouais, c'est du noir et blanc. Il supporte pas l'idée de la couleur, même dans ses dessins. Et c'est du noir et blanc.
C'est un truc tranché à la Mignola, ou en plus, j'ai l'impression que c'était un truc tranché à la Mignola, mais un peu plus fouillis, en fait.
Ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment puissant, quoi, comme dessin. C'est vraiment bien, quoi. Ça rend bien l'action. C'est même mieux que s'il y avait des. Sinon, toutes les pages seraient rouges, quoi. Enfin, c'est du sang partout. Donc, là, ça passe très bien, comme ça.
Okay. C'est un one shot ou c'est une série à suivre? Il y a plusieurs.
Ah non, c'est une série à suivre. Pour l'instant, il y a trois tomes qui sont sortis. Il y a le quatrième qui devrait sortir au début d'année, là. Et il y avait 5 tomes de prévu, il va en faire un 6e et il fera un spin-off de la série, apparemment.
Oh, la classe. Bah, ça donne vachement envie. Est-ce que je t'ai demandé les deux mots pour tout? Je sais plus. Je t'ai demandé les deux mots pour le scénario?
Ou pour le scénario, non, je vais le dire. Donc j'ai mis bourrin et hyper référencé.
Ouais.
Donc le premier tome est pas tellement bourrin, ça va. Mais après, par la suite, c'est une vraie boucherie, quoi. Le tome 3, c'est la boucherie, quoi. total.
Ok. À qui est-ce que tu conseillerais cette bande dessinée?
Alors, à tous les fans de films d'horreur, de série B, tous les fans de Chuck Norris, de Steven Seagal, parce qu'ils sont dans le tome 3, tous les deux.
Waouh. Et Chuck Norris joue un WoW.
J'allais dire.
Et Chuck Norris, tu dis pas WoW, tu dis WoW.
Voilà. Wow. Ça calme.
Ah, ça calme.
Pour faire Merton, je me vengerai.
On a une petite question.
Une question apparemment de la chatroom. Oui, Isaac.
Une question très pratique. Quel prix?
Quel prix? Est-ce que tu as une idée du prix?
Ouais, je vais vérifier tout de suite. 15 euros.
15 euros le tome. Donc,
15 euros, il y a 100 pages. Alors, c'est la BD est c'est vraiment du bon matos, quoi. C'est super bien fait. C'est des pages épaisses. Enfin, c'est parfait, quoi.
Je comprends pas que ça marche. Aquileos,
c'est quoi qu'on a parlé récemment?
Aquileos, on a parlé d'un truc il y a super pas longtemps de chez Aquileos. Je sais plus quoi, mais Aquileos, ils ont repris la série que j'adore, mais il faudrait que je prenne la suite. Merde, cette série d'espionnage anglaise qui était géniale. Queen and Country, voilà, qui était de Ruka, qui était géniale. J'avais les premiers tomes qui étaient sortis chez Semic et en fait, je me suis laissé avoir parce qu'Aquileos, ils les ont sortis à la chaîne. Il y en a un paquet et il me manque 40 000. Je pense que, étant donné qu'on a rattrapé The Walking Dead, peut-être que je vais me lancer là-dedans pour enchaîner.
Ouais, peut-être.
Voilà. Et ben, merci beaucoup. Donc, toi, tu n'as ni Twitter, ni site, ni rien. Tu ne sévis pas sur Internet. Tu es un homme discret.
Ouais, alors, par contre, je vais faire de la pub pour Tourche qui n'a pas pu venir.
Oui, Tourche, on le salue. Il n'a pas pu venir, malheureusement.
Voilà, ouais, il a des petits problèmes perso, donc il n'a pas pu venir. Par contre, lui, il y a un site, c'est le Grenier du Rock.
Qui est très, donc, très sympa.
Qui est super bien fait, il est vraiment fort là-dedans. Et sa femme a un site, c'est Livresse des Bulles, un site de BD. Voilà.
Oui, qui vient de démarrer tout juste.
Voilà, qui vient de démarrer, il n'y a pas encore grand-chose, mais...
Il y a déjà pas mal de trucs. On sent Livresse, justement, des débuts, où on publie Adon Fanon voilà. Sur son blog. Va-t-elle tenir le choc?
C'est une critique pour ton frère ou...
C'est une critique pour mon frère, ouais, qui aussi est Adon Fanon Fanon en ce moment. Mais qui...
Juste pour ajouter un truc, en lisant vite fait en librairie, on peut croire que c'est un truc vraiment bourrin et assez mal fait, l'apocalypse sur Carson City, mais les scénarios sont hyper recherchés et d'un tome à l'autre, ça change vraiment presque de style, quoi. En restant dans le même style de dessin, en suivant l'histoire, c'est vraiment pas construit pareil, quoi. C'est vraiment très bon, quoi.
Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Sachet. C'était très bien sympa.
Bien, merci à vous.
On me dit dans la chatroom que peut-être que ça lag. C'est Ido qui me dit ça. Je ne sais pas, en fait, vu que nous, on n'a pas le retour sur le live. On peut noter que Randall Flagg est en train de nous faire une illustration en live sur le chat. Je trouve ça super génial. Il fait pas des illustrations en live sur n'importe quel podcast. Hein. C'est toujours des podcasts qui déchirent. Voilà, franchement, ouais.
C'est bon.
Voilà, donc franchement, je crois que bravo, merci beaucoup Randall, c'est super cool.
Et merci de Laurent.
Merci de.
Pour la chronique, il a trouvé ça très bon.
Merci de Laurent pour la chronique, qui a trouvé ça très bon, qui rajoute, ouais.
Et qui rajoute que.
Je vais te refiler le micro, hein, parce que si tu dois parler pour nous dire les trucs, vas-y.
C'est pas grave, hein.
C'est juste pour préciser de la part de Laurent que Steve Rolson, donc des maîtres de l'évasion, a dessiné également Queen and Country, donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Ne pas hésiter.
Voilà, c'est une double référence, c'est plutôt cool. Eh ben, tu vois, là, je suis en train d'essayer de gagner du temps pour réussir à arriver sur ma fin, trouver mon jingle que je vais lancer, genre là. Donc, nous recevons maintenant... c'est autour d'un habitué, voilà.
Qui est méchant.
Qui est méchant. Bonsoir, Merton. Merton,
coucou.
Ah,
coucou.
J'ai cru que t'étais plus là.
Mais si, je suis là. Non, c'était le temps que je démute mon micro et tout ça, tu vois.
Tu fais ça vachement bien. Tu démutes vachement bien ton micro.
Ça. Voilà. Bonjour, public. Bonjour.
Voilà.
Comme ça, je salue mon public, et oui.
Public, 25 personnes dans la chatroom, moi j'hallucine.
C'est pas mal, ouais, c'est énorme.
Non mais je pense que c'est tous les gens qui s'emmerdent en attendant que l'apéro du capitaine démarre à 23h, tu vas voir que si on dure plus longtemps, d'un coup on va voir plus personne. Donc, mais de toute façon allez-y, l'apéro du capitaine, j'en ai pas écouté beaucoup, mais le peu que j'en ai écouté c'est exceptionnel. Donc, bonsoir Merton, tu vas nous parler de Skins Party et tu as envie qu'il gagne à Angoulême.
C'est exactement ça, c'est parler pour une sorte d'appel, un manifeste pour que Skins Party gagne un prix à Angoulême, parce que cette BD est, je pense, celle qui m'a mis la plus grande claque que j'ai pu prendre en BD, quoi. Enfin, c'est... Alors, c'est la
première... As-tu lu déjà le dernier Cosmonaute? As-tu lu le dernier cosmonaute? Voilà, c'est parce que tu n'as pas lu le dernier cosmonaute.
Ou pas.
Bah, toi, t'avais pas accroché, toi.
Non, j'avais pas eu le tout accroché. Donc,
Non, le dernier cosmonaute, c'est génial. Mais c'est pas grave. Vas-y.
Peut-être que ça peut gagner après Angoulême.
Alors, à la base, c'est chez Manolo Sanctis. C'est du coup l'une des premières BD qu'ils ont faites, même si leur, du coup, ça n'a pas duré très longtemps. L'histoire, c'est simple. C'est une skins party. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est No Limit. C'est à partir d'une série anglaise qui s'appelle Skins, où les mecs font un peu n'importe quoi, des ados de 15-16 ans qui se défoncent, qui se droguent dans des soirées où en gros tout est permis, il y a aucune limite, et sauf que là ça va très 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 mal tourner, et c'est vraiment je vois la plus grande claque en BD, tu t'avances, oui, non, je m'avance pas, c'est juste moi je l'ai prise,
c'est
vraiment
la plus grande claque pour l'instant,
c'est ça, ouais. Je l'ai vraiment prise dans la gueule, parce que des soirées hardcore j'en ai fait, et là clairement il dépasse tout quoi, c'est vraiment super,
raconte-nous tes soirées hardcore.
Je savais qu'on allait en arriver là. Non, mais...
Ça fait longtemps.
Alors, pour revenir à l'histoire, pour revenir
tu
à
changes
l'histoire,
pas le même sujet là, non
très légèrement.
Non, en fait, tu retournes dans le sujet, c'est nous qui dévions.
Exactement. En fait, l'intérêt de cette BD, c'est que c'est complètement dysnarratif, c'est-à-dire qu'on va avoir la soirée d'un personnage, puis d'un autre, et évidemment, au fur et à mesure, on va avoir la soirée qui avance.
Ok, on se croise, on voit en arrière-plan un personnage qu'on va voir plus tard, qu'on va suivre plus tard, etc. Ah. Ok.
C'est ça, jusqu'à arriver à un personnage qui va péter un plomb un peu, mais voilà, je vais pas trop spoiler. Et déjà, dès le début, on se rend compte que la soirée est super malsaine. Et vraiment, j'en ai fait des soirées, comme je disais, là, ça...
En fait, ta référence, c'est des soirées,
je n'ose pas imaginer.
Parce qu'en fait, là, tu te dis, eux, ils ont fait pire que nous. C'est ça qui
est... C'est ça, exactement. Exactement. Non, et là c'est vraiment hardcore. En plus ça se passe dans un univers qui est normalement adolescent, et je dirais que le dessin, il est super coloré, c'est limite flashy parfois, il y a du rose un peu plus
haut. Déjà le genre. Qu'est-ce que tu nous as mis pour le genre ?
En fait j'ai eu beaucoup de mal en genre, parce que j'ai jamais lu quelque chose comme ça. C'est extrêmement réaliste en fait, et je pense que l'histoire en elle-même est très réaliste, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans Skins Party, voilà, qui se voulait un truc un peu documentaire des soirées des ados, mais en même temps le dessin lui est pas du tout réaliste pour rien du tout, c'est du rose, c'est plein de couleurs.
Ouais, c'est passé aux couleurs super flashy années 80.
Exactement, on est.
Qu'est-ce qu'on voit dans Drive ?
C'est ça, et en fait, on est dans un truc complètement en décalage en fait, et le décalage marche super bien quoi. Ouais, je pense qu'on est dans ce décalage, ça marche super bien.
Ok.
Alors, si on.
Vas-y, ouais. Continue, excuse-moi, je pensais que t'étais en train d'hésiter sur un truc à dire, mais tu as l'air à fond. Vas-y, je t'écoute.
En fait, ensuite, si on devait, je pense, donner un mot pour le scénario, je pense que c'est vraiment malsain. Et il faut quand même avoir le cœur très bien accroché pour suivre le truc. Moi, j'ai des amis qui l'ont lu, qui m'ont dit, mais pourquoi tu lis ça? C'est complètement barré. C'est glauque du début à la fin. Et à côté de ça, le dessin est flashy et limite un peu mignon parfois. Et du coup, le décalage est super, super intéressant.
Alors là, t'es en train de me donner envie de lire cette BD. Est-ce que je dois avoir l'impression d'être un gros pervers bizarre?
Mais non. Pas du tout. C'est une BD à offrir à Famille de France. C'est une BD. Non, je pense qu'on peut aller jusque là. C'est-à-dire que moi, après avoir lu ça, jamais mon gamin ira en skins party. Ce n'est pas... Et pourtant, j'en ai fait des soirées. Tu vois,
c'est ça. C'est le Requiem for a Dream en BD.
Requiem for a Dream en BD, nous dit Isaac.
C'est un peu ce que j'ai retrouvé moi, enfin en regardant un peu ce qui se disait, il y a beaucoup de gens qui faisaient la comparaison, et c'est peut-être pas si faux que ça, sauf que Requiem était quand même très, enfin c'était pas si mignon dans le dessin, et il n'y avait pas du rose et du vert fluo un peu partout, mais clairement, si vous voulez que votre gamin n'aille jamais en skins party, offrez-lui ça quand il a, je sais pas, 12-13 ans, ça devrait le traumatiser à vie.
Ouais, enfin d'un autre côté, on m'a fait plein de trucs qui disaient que la cigarette c'était super mal, ça m'a pas empêché de m'y mettre.
Bon, peut-être. Non, mais là, enfin, j'ai pas envie de spoiler, mais il se passe des trucs tellement horribles que quand même, s'il est pas touché, emmenez-le voir un psy, parce que c'est un psychopathe en devenir.
Ok, quoi. Tu avais MS pour le scénario, pour le dessin, tu utilisais quoi?
Bah, c'est ce que je disais, flashy et, ouais. On a parfois l'impression d'être limite dans Alice au Pays des Merveilles, dans certains moments, parce que, en fait, il essaye de retranscrire ce que ressentent les personnages, mais, évidemment, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, et ouais, parfois, ça part complètement en live, quoi. Ça part que, et moi j'ai eu des moments un peu waouh, on a l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles, quoi. Mais évidemment plus glauque, parce que ça parle de trucs bizarres.
D'accord. Et eh ben merci. Mais, c'est super intéressant. Ça donne encore super envie. On va acheter plein de BD encore.
Pour l'instant, je suis à 3 achats.
T'as 3 achats, ça y est.
Voilà. Et pour les pervers, il y a des scènes de viol vraiment hardcore. Enfin voilà.
Ça, c'est le mec qui vend le truc, tu vois. Il attend la fin pour envoyer le dernier argument qui tue, quoi.
Il y a des scènes de viol en vente, quoi. Ouais.
Voilà, donc il faut. Voilà.
Isaac te commande d'aller bosser chez TF1.
D'accord, ben voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est. Moi, pour moi, il faut que ça gagne le prix Révélation cette année. Timothée Le Boucher, c'est sa première BD. Il a, je sais plus, 22 ou 23 ans. J'imagine pas les soirées que lui a faites pour imaginer ce genre de choses.
Oui, parce qu'il a un peu édulcoré, il s'est dit c'est pour une BD, je vais y aller seul.
Ça, j'ose pas imaginer, mais vraiment, lisez-le. Et
ta femme est une journaliste.
Voilà, et vraiment, lisez-le et faites. Voilà.
Enfin, okay. Tu as une idée, le fait que Manolo Santis arrête, ils continuent à faire du réassort sur leur BD?
Ça, j'en ai aucune idée, mais je crois que dans le communiqué qu'ils nous avaient envoyé, ils disaient en effet que les anciens albums continueraient d'être disponibles.
Voilà, mais est-ce qu'ils vont les rééditer? Est-ce qu'ils vont les réimprimer en cas de besoin?
Je crois que c'est une obligation légale, hein, de toute façon, dans les contrats.
D'un autre côté, s'il a le prix Révélation, ils ont fort intérêt à le réimprimer.
Voilà, et moi je milite. Hein. Regarde, et autre Nana de l'assistance n'apprécie pas des masses, mais il y a aussi des messieurs tout nus. Voilà, hein, c'est. Si ça t'intéresse.
Parce que regarde le bleu
est une couleur chaude.
Ouais. Le bleu est une couleur chaude, il est introuvable, quoi.
Oui, il est introuvable, oui.
Il est introuvable et pourtant il a gagné un prix. Donc,
Voilà. Oui, ils ont un peu ramé. C'est le problème des petits éditeurs, c'est vrai que Manolo Santis pourrait avoir ce souci-là. Merci Martin. Alors toi, on te retrouve un peu partout. Tu es l'antithèse de Sachet. On te retrouve sur un fantastique podcast tous les mois. Tu fais une rubrique sur les news, hein, c'est ça. Ça s'appelle le 1AE Club, un truc comme ça.
C'est ça, oui. C'est un podcast BD qui monte, qui est formidable. Écoutez-le, voilà. Hein, c'est vraiment génial.
Avec un mec pas narcissique du tout.
C'est ça.
Qui, voilà.
Il y en a d'autres là-bas, je crois.
Il y en a d'autres, non, mais c'est toi là. C'est toi sur les autres, tu vois. Ensuite, on te retrouve aussi sur BDO, ou quand même, tu es un peu le rédacteur en chef de BDO.
C'est ça, c'est moi.
Le grand gros.
Ouais, c'est moi le chef. C'est moi qui fouette les gens.
C'est toi qui as le fouet, c'est la classe. Et on te retrouve aussi sur Merton fait sa bulle, parce que en plus d'avoir tes projets chez BDO, tu fais maintenant tes trucs sur ton site. Tu es revenu il y a peu et c'était bien.
Mais tu as une vie sociale aussi, parce que.
Oui, une vie sociale.
C'est ça, exactement.
Mais il joue
j'ai tourné mon dernier épisode cet après-midi, tu vois.
Ah, enfin, on a hâte de voir ça. Moi, je trouve ça très sympa. Sur BDO, ils ont fait un truc qui s'appelle Un jour une BD. Je sais pas si ça te rappelle, Un jour un livre, où tous les jours, ils nous font une petite chronique d'une BD. Donc, il y a Merton qui intervient et aussi Von Ledig, un de ses collègues.
C'est
super sympa. Ils parlent de plein de BD. Ils ont pas forcément le même avis que nous, donc c'est d'autant mieux. Voilà.
Bah oui, des fois on n'est pas d'accord.
Des fois on n'est pas d'accord et c'est cool.
Mais des fois je suis pas d'accord avec Van Ledig non plus. Hein. Enfin, voilà, faut dire les choses.
C'est que voilà. Mais comme t'es le boss, tu peux le taper.
Exactement. Voilà, c'est moi qui ai le fouet.
Tu en as de la chance. Ok, bah merci beaucoup, Merton.
Merci à vous. Et puis de toute façon, à bientôt.
Et puis bientôt.
Merci public d'avoir écouté et vote pour Skins Party, pour Angoulême, tout ça, c'est formidable.
On vote pour Angoulême pour le prix Révélation ou c'est non?
Il y a des l'an dernier en tout cas il y avait une phase de voting sur Internet. Donc, voilà.
10% des votes d'Internet comptent et 90% du jury.
Ouais. De toute façon on se voit sur Angoulême, Merton, on va se voir en vrai.
C'est ça.
On va pouvoir.
Ah enfin, enfin.
On va pouvoir voir en vrai.
Des caméras, tout ça.
Ok, merci beaucoup, Merton.
Ciao ciao.
Attention le bouton. Voilà. Nous enchaînons. Ouais, ils sont courts. C'est la version light que j'ai faite pour les nouvelles versions. Tu sais où j'ai mis des jingles débiles, pas forcément super bien fait. Non, non, on peut remercier quand même Ours Vince qui fait notre générique. Qui, je lui en ai parlé, j'ai essayé de le contacter pour lui dire on fait ton système musique et tout, c'est cool. Et
qu'on a choisi, qui était excellente.
Voilà, qu'on a choisi, qui était excellente. Avant, on utilisait du cake, mais d'un point de vue des droits, j'étais pas sûr que ce soit super top. Ça a duré quelques émissions. Un très bon morceau de cake qui s'appelle Arco Arena, je vous le recommande, c'est un truc instrumental génial.
C'est quand Lucie est venu que tu t'es dit, tiens, il faut que j'arrête.
Voilà. Nous allons maintenant recevoir Philippe qui est un ami de longue date, que je connais de mon enfance ajaxienne, adolescent.
Ouais, ouais.
Ah, d'où le choix.
D'où le choix, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi une BD avec accent.
C'est ça.
Voilà, Lorenzaccio. Tu vois, c'est... Hey.
Rassurez-moi, ouais. Vous ne le faites pas en Corse.
On va te faire la chronique en Corse. La chronique en Corse. Voilà, attention, je vais donner...
Non, ça va aller, c'est bon. Pas ce soir-là, Cantale.
Ok, bon, c'est bon.
Alors, en fait, on n'est pas si loin, parce que Lorenzaccio, ça se déroule à Florence.
Oui.
Mais avant, je voudrais dire vraiment, vraiment un coup de foudre pour cette BD. Puis cette BD qui a besoin d'un avocat, peut-être, parce que, comme c'est du musée, du littéraire, peut-être qu'il y a des fans de BD qui vont dire, bof, c'est pas pour moi, ou qui vont être intimidés.
Mais d'un autre côté, c'était du théâtre fait pour être lu, c'était même pas du théâtre à la base prévu pour être mis en scène, donc, quelque part.
Ouais, en fait, Musset, il a commencé très très jeune, il a été célèbre à 20 ans pour sa poésie, puis il a voulu se lancer dans le théâtre, et là, la cata complète. Et puis il s'est dit qu'on ne l'y reprendrait plus, et il s'est fait un gros je boude, et il a fait le théâtre dans un fauteuil, et c'est pour ça qu'il a explosé les limites du romantisme, il a explosé les limites de son époque, et il a fait en 1834 Lorenzaccio, qui est complètement injouable, qui est un des deux grands monuments du théâtre du 19e siècle, à mon avis, avec Cyrano de Bergerac. J'ai réussi à retrouver le compte des mots, ça fait 35 000 mots, à peu près. Wow. Donc, pour vous donner une référence, de la part de Molière, c'est quelque chose comme 22 000 mots, pas plus.
Alors moi, j'avais lu Lorenzaccio, donc quand j'étais étudiant, j'avais été bluffé justement par l'impossibilité de mettre en scène cette pièce, parce qu'en gros, d'un coup, t'as des mecs qui arrivent à cheval, dans une pièce de théâtre. Hein. Et puis, t'as une scène qui dure, deux pages, tu vois, et d'un coup, paf, on change de décor. Le truc en théâtre, mais de malade. Et j'avais trouvé ça génial. Moi, ça m'avait beaucoup fait penser à un peu, beaucoup à Hamlet, en fait.
Mais c'est considéré par la critique comme la seule pièce française qui puisse boxer au niveau de Shakespeare. Donc, c'est pas rien.
J'attends le film avec Mel Gibson.
Et Gwyneth Paltrow,
le dit Isaac.
Donc c'est pas rien pour un auteur, là, à l'occurrence c'est Régis Penèche et 12 bis, qui s'attaque à Lorenzaccio, et qui bien sûr ne fait pas une BD de 300 pages ou de 400 pages, parce que sinon son éditeur ça valerait une arrête de poisson ou ferait une attaque directe. Mais ça fait quand même une centaine de pages, c'est très très beau. J'ai commencé par le dessin, moi j'ai mis léché et pictural.
Léché et pictural, il nous dit ça, ouais.
Léché d'un côté Manara, mais le Manara historique, le Manara des Borgia par exemple.
Ouais.
Et il y a un contrepoint, il y a qui rythme l'album, des plans, des pleines pages, avec à chaque fois des portraits différents de Lorenzaccio, qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Illustré d'une poésie. Alors la poésie, c'est pas Lorenzaccio, je l'ai retrouvé facilement parce que je suis un grand lecteur de Musset, à petit partie de vente. C'est la nuit de décembre. La nuit de décembre qui a été écrite en 1835 et où on développe le thème du double. Alors c'est très malin et c'est une BD très maligne aussi parce que on voit, il y a tout un tas de petits détails qui sont à chaque fois dans le texte. Je m'aperçois que je n'ai même pas présenté le voilà. Sujet général.
Qu'est-ce que nous raconte Lorenzaccio? Voilà, c'est ça. À la base, qu'est-ce que ça raconte pour les gens qui n'osent pas aller vers du théâtre, sachant que Lorenzaccio, au niveau du théâtre, franchement, c'est super rock'n'roll. Hein.
Super rock'n'roll. Ben, je crois qu'on a, honnêtement, on a pratiquement tout oublié du théâtre du 19e siècle français, à part Lorenzaccio et Cyrano de Bergerac. Alors là, imaginez-vous, on est au 7e siècle à Florence.
La classe, les trahisons, les complots, les cités-états qui se battent dans tous les sens.
La République de Florence est tombée. Un duc au service de l'Empire, une marionnette de l'Empire a pris le pouvoir, le duc Alexandre, débauché, corrompu, jouisseur, et auprès de lui, il a une espèce de bouffon tout frêle qui lui fournit des femmes un peu à la Eric Watchett. D'ailleurs, l'auteur est un admirateur de Kubrick.
Et un bon gars. Et, pardon.
Salut, Brice. Mousset était fan de Kubrick.
Mais Mousset était un grand ébauché à l'époque. Qui alignait les conquêtes faciles, qui a sombré dans l'alcool.
Ils avaient du savoir-vivre quand même. Hein.
Oh, ben c'était un grand dandy parisien. Et donc, on a ce personnage, un des personnages les plus fascinants de toute la littérature française, dans Dacio, qui porte un masque. Alors, c'est très difficile de mettre deux mots pour le scénario et deux mots sur le dessin, parce que tout est tellement imbriqué dans cette BD, c'est ce qui en fait sa réussite. On pourrait mettre Carnaval et Miroir. Ça s'ouvre sur un carnaval, c'est tout le peuple en liesse, le peuple qui a perdu sa liberté en liesse devant le tyran, et le tyran qui leur hurle « Amusez-vous !» Et tout en couleur, il y a une débauche de couleurs, et au milieu, tout seul, le bouffon, en noir et blanc, en habit de Charlot, Lauren Tachio, qui lui aussi porte un masque, mais un masque invisible. Et alors, je veux pas dévoiler quel est le masque de Lauren Tachio, pour ceux qui n'auraient pas connaissance de la pièce.
Ouais, il cache son jeu, il y a tout un mystère, toute son histoire derrière. Je sais pas, toi, tu l'avais lu, Lauren Tachio? Tu connaissais l'histoire? Non, pas du tout. Non. Franchement, c'est sublime.
Non, en fait, oui, parce qu'en fait, Isaac a ciré quelques bancs d'école avec moi, et là, me regarde bizarrement.
Donc, je l'ai vraiment étudié, mais ouais, tu l'as lu, ok.
J'ai ciré quelques canapés aussi avec toi.
Vous cirez les canapés ensemble, on va croire des trucs.
Et on l'a lu.
Vous l'avez lu.
Elle a juste fait un 3 mois dessus.
Mais... Bon, en gros, ils ont passé 3 mois à l'école à bosser dessus, mais apparemment, c'était tu cirais d'autre chose à l'époque, c'est ça? toi, t'as été vraiment attentif à l'école.
Justement, ça pourrait être une très bonne introduction à Lauren Tachio, plus qu'un cours d'école, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas un prof de lycée de 50 ans qui écrit à Lauren Tachio. C'est un gamin de 24 ans.
C'est super.
À la suite d'une déception.
C'est franchement.
C'est un gamin de 24 ans à la suite d'une déception amoureuse.
Voilà, moi je sais que Lauren Tachio, je l'ai lu, je suis resté mais sur le cul. Cette pièce, elle est mais magistrale quoi. Déjà, c'est pas du théâtre pour être c'est pas du théâtre fait à la base pour être joué, c'est vraiment du théâtre fait pour être lu. Donc il n'hésite pas sur la débauche de mise en scène et compagnie. C'est comme un film. Ça ferait un film. Je comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de film encore de Lauren Tachio. Peut-être qu'ils ont pas trouvé l'acteur, j'en sais rien. Mais franchement, c'est un truc qui est exceptionnel à lire. Et justement, j'étais très intrigué par cette BD et ça me donnait envie.
Et elle est parue chez qui, au fait? Parce que là, j'ai pas
12 bis que je découvre aussi pour l'occasion. Et en fait, l'auteur a déjà sévi chez Soleil, mais ses livres ont l'air d'être épuisés. Ou en tout cas, il est plus visible sur le moteur de Soleil qui a plus l'air de s'en préoccuper. Il a fait une trilogie chez Daniel Maga. Et puis là, il passe chez 12 bis. Moi je recommande vraiment chaudement parce que j'espère aussi un jour la BD 300 pages. Puis il y a un truc que, mais ça c'est un vice personnel que j'aime bien, c'est quand un auteur se met en scène ou quand qu'on peut voir la patte d'un auteur dans la BD, il a un peu modifié, il a un peu adapté. D'ailleurs, si Georges mettrait adaptation poétique, pas seulement parce qu'il mêle de la poésie et du théâtre, mais la nuit de décembre répond beaucoup à Lauren Tachio quelque part, aussi parce que cette obsession du regard, cette obsession de se regarder soi-même, de se voir son double. Faut savoir que Musset a eu des crises de folie à l'époque. Il est tombé dans la quatrième dimension. Il s'est vu lui-même vieux, déchu, avili. Il a vu l'épave qu'il est devenu. Et ça vous le dit pas au lycée, alors que ça pourra le rendre bien plus sympathique.
Il a fait des skins parties de son époque, en fait. Voilà.
Oui, on peut le dire.
Voilà, c'est ça.
Mais peut-être pas avec des adolescentes, quoi que. Voilà.
Merton nous dit que Jean Villard avait réussi à faire une adaptation avec Gérard Philippe au Palais des Papes à Avignon.
C'est l'adaptation de référence.
Ouais.
Et pour le public non modifié, l'indépassable.
Comment il s'appelle l'autre acteur récent qu'il a joué, celui qui joue mal quand il fait du cinéma?
Weber.
Donc qui joue dans le dîner de fou, dans le dîner de con. Huster, Francis Huster, qui est un très bon acteur de théâtre, mais un très mauvais acteur de cinéma.
Très mauvais acteur.
Oui, c'est vraiment le mec qui est, je trouve, l'exemple comme quoi le travail de acteur de théâtre, acteur de cinéma, c'est pas le même.
Huster dans le site, très très bon.
Merton nous dit que même au théâtre, il est mauvais, Huster.
Non, il a eu des bons rôles quand même.
Voilà, il a eu des bons rôles. Non, mais c'est vrai que dans le dîner de con, il joue faux. Il joue théâtre. Il sait pas jouer autre chose, ce mec. C'est ça qui est dommage. Ok, bah merci Philippe. Ça m'a donné moi très envie. Déjà, ça me donnait la base. Au niveau du dessin, t'arriverais à définir un peu au niveau du rendu. Ça te fait penser à. Tu veux te parler un peu de Manara au niveau du style.
Il y a deux styles. Il y a des planches dans lesquelles il reprend la nuit de décembre. Donc qui n'est pas du théâtre, qui est un poème, qui sont très picturales avec un jeu sur les délavés, sur les couleurs, c'est plus de l'illustration que de la BD. Et il y a la narration très léchée, très propre, très précise, un peu ça m'a fait penser un peu vraiment au BD historique de Manara sur l'Italie d'ailleurs. Et l'histoire des papes par Manara, le Borgia par exemple.
Oui, Manara, quand il fait autre chose que du cul, c'est quand même aussi sympa. On avait parlé d'ailleurs de Manara pas mal avec... quand on avait reçu justement Merton, on avait pas mal parlé de Manara, ou disant que quand il faisait pas que du cul et qu'il y avait un scénario derrière, il arrivait à faire des trucs superbes et que c'était un illustrateur assez génial. Merci beaucoup Philippe. Philippe, on te retrouve toi sur le site quelquesplumes.info.
Où il y a une interview interdite.
Oui, une interview interdite de nous.
Ah bon?
Oui, essayez, elle est en ligne. Tu l'as pas vu encore, Théo?
Non.
Il faudra que tu regardes. On est, mon dieu, quelle horreur. Il y a une photo d'ailleurs superbe de nous où on a fait le truc où on a triché et où en fait, j'ai mis ma tête sur le corps de Théo et Théo a mis sa tête sur mon corps.
Ça a été abject.
Abject, franchement.
C'est encore une skin party.
Voilà, c'est encore une skin party. Nous sommes des gens odieux. Donc quelquesplumes.info, tu as un Twitter @PhilippePerrier, c'est assez facile. Tu as un champagne, mais ce n'est pas toi en fait, ça n'a rien à voir.
C'est Laurent Perrier.
Non, il y a un champagne Philippe Perrier aussi, il me semble.
Non, c'est Laurent Perrier.
Laurent Perrier nous dit
aussi.
C'est Laurent Perrier.
Ah, Isaac, le spécialiste du bar, nous dit que c'est Laurent. Pardon. Effectivement, c'est une eau gazeuse, Philippe Perrier. Oui, ok. Enfin, Perrier tout court. Ok, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Ça me fait très très plaisir de t'entendre. Je voulais aussi te remercier personnellement pour nous avoir mis en contact avec quelques attachés de presse au niveau de la BD, ce qui nous a donné accès à certains services de presse, et quand même c'est super cool. Merci beaucoup Philippe. Oui. Tu nous as donné un petit
moment de sympa.
Voilà, merci, et donc je te dis à une prochaine fois.
Bon, les gars que t'as invités là, ils m'agacent quoi.
Pourquoi?
Ils sont hyper calés,
je trouve. Ils sont franchement, ouais. Mais je veux dire, enfin, pourquoi tu m'as embauché moi?
Je veux dire, embauché toi?
Prends-les eux, quoi.
Non, mais oui, ils sont tous perpète et tout. Toi, t'étais là, quoi. C'était plus facile.
C'est ça.
Ils sont vachement bons, je veux dire. Moi, j'ai envie d'acheter, là, ce qu'ils me donnent.
Ouais, t'as envie d'acheter? Allez, tu sais ce qu'on va faire, là? Un jingle. Voilà, j'ai l'impression que Skype coupe un peu les jingles. J'aurais dû mettre des silences avant et après. Parce que, enfin, le VLC a tendance à couper un peu les premières et dernières secondes, et là, mais c'est pas grave.
Le Duc.
Et là, nous recevons le Duc. Nous recevons Matt.
Non, c'est Duke.
The Duke.
Il a participé à cette soirée. Ici, là.
Il a participé à cette soirée. Il a participé sur ce canapé à la soirée The Big Lebowski où c'était. C'était une horreur car c'était un peu notre skin party à nous. Le principe, c'est simplement on regarde The Big Lebowski et on se boit un. J'ai oublié le nom du cocktail. Le nom du cocktail, un russe blanc. On se boit un russe blanc à chaque fois qu'il en a un dans la main. Parce qu'en fait, comme il ne boit pas du tout dans le film, si on buvait à chaque fois qu'il boit, on ne pourrait pas boire. Donc, et c'était une soirée assez mémorable.
Oui, oui. En fait, on n'a pas.
Non, pardon, les rideaux sont.
Les rideaux s'en souviennent. Bonsoir, Mathieu.
C'était pas nous.
Tout le monde.
Salut.
On
t'entend. Oui, on t'entend.
Ok, très bien.
Tu as un son un petit peu faible, mais ça devrait aller. Faut juste qu'on fasse gaffe à ne pas te couvrir ta voix.
Non, à côté, donc c'est normal.
Ah, le petit d'or. Chut. Donc on va chuchoter tous aussi. Mais nous, on va chuchoter en parlant bien, en touchant le micro avec la bouche, ça sera mieux.
Ça va, c'est bon, je suis déjà dans le nez, là, tu veux que je fasse quoi?
Tu vas nous parler de Black Lagoon, et c'est un, attention, suspense, un manga.
C'est un seinen, en fait, pour être précis.
Putain, si tu commences à rentrer dans les détails du genre, nous, c'est bon, quoi.
Je donne le détail, il faut que tu dises ce que c'est.
Le seinen, c'est plus le manga pour jeunes adultes. Donc, t'auras pas de jeune fille à cheveux roses ou de super pouvoir qui balance des boules de feu, par exemple.
D'accord. Et pas le « Oh mon Dieu, un ennemi encore plus fort que moi. Et si j'apprenais la 7e technique du dragon qui me permettra d'être encore plus fort de mon ennemi ?»
Je sais pas si c'est le 9e sens. Celui qui regroupe le 8e, le 7e, le 6e et le 50.
Et ça, quoi, j'ai cru que t'allais nous jouer le 5e, le 4e et le 3e. Ça va, merci.
Je sais pas, quand même.
Donc, que nous raconte Black Lagoon? Bon, déjà, quel est le genre et qu'est-ce que ça nous raconte?
Je commençais par le scénario.
Vas-y. Donc, déjà,
par rapport au scénario, pour les deux mots, j'ai mis arc narratif et effréné.
Tu triches autant que Mathieu, franchement.
Comment ben, ça peut venir
c'est, effréné. C'est Mathieu, mais il triche.
Ça, c'est de la mauvaise foi. Il y en a eu d'autres dans l'émission qui ont donné plusieurs mots et tu leur as rien dit. Là, c'est un Mathieu, c'est du racisme.
Voilà. Je suis Mathieu-phobe.
Il donne deux mots, ça y est. Ah ouais, toi aussi, tu triches. Et les autres, alors tu leur as rien dit? Non, mais oh.
Donc, arc narratif et.
Arc narratif est effréné.
Effréné, arc narratif, effréné. Ça
donne envie. Effréné, Célestin.
T'as fait un jeu de mots périls. Attends, j'ai pas compris ta blague là.
C'est une blague pour Institut.
C'est une blague d'Institut, ça.
C'est une blague d'Institut, d'accord.
Célestin Freiné.
Ah, effréné, ouais. Oui, la méthode effréné, etc. Oh là là.
Eh, c'est que le deuxième.
C'est que le deuxième type en chibo. Le dessin de Randall Flagg avance vachement bien, il a réussi à récupérer notre logo, c'est super joli, si vous êtes sur la chatroom, c'est vachement classe. Donc on t'écoute, parce que là on est en train de t'interrompre et de t'empêcher de parler.
Voilà. Donc rapidement, l'histoire commence très simplement avec un coup de poing dans la gueule d'un certain Okajima Rokuro, qui sera plus tard appelé Rock, et je vais l'appeler Rock parce que ce sera plus simple.
Ouais, Okajima Rokuro, moi j'ai fait Rokuro.
Donc ils sont sur Rock. Donc c'est un jeune employé d'une multinationale qui est chargé de livrer un disque qui contient des données pas tout à fait claires sur secrètes et capitales sur la société pour laquelle il bosse. Et malheureusement pour lui, pendant qu'il est en train de faire son voyage en bateau, il y a une bande de transporteurs pirates, on dira, qui vient récupérer le disque. Donc malheureusement pour lui, il se fait prendre en otage sur le Black Lagoon.
Ça me fait penser un peu délire à la Johnny Mnemonic, côté un peu cyberpunk.
Non, là ce serait plus John Woo dans le style.
D'accord.
Et donc pour rapidement continuer le pitch, en bon salaryman, il pense que sa société, une grande société omnipotente, va tout faire pour venir le secourir.
C'est un bon japonais, c'est le mode de pensée japonais.
Voilà, c'est à peu près ça, sauf que les mercenaires qu'engagent la multinationale sont surtout présents pour faire disparaître toutes les preuves et puis lui avec tant qu'à faire. Donc rapidement, pour pas spoiler la fin de l'arc, à la fin de l'arc, il décide de quitter sa vie au Japon et de s'engager avec les quatre pirates transporteurs, on dira.
Ouais,
donc on trouve dans l'équipe Levi, une maniaque de la gâchette, Dutch, le capitaine du torpillère, ancien vétéran du Vietnam, et Benny, un hacker et tech spécialiste, on va dire, mécanicien.
On a l'impression d'être quand même dans un truc très 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 américain quand tu nous le décris comme ça.
Très rôliste aussi,
ouais.
Oui, ça y fait penser au côté rôliste un peu aussi, c'est, j'avoue que là-dessus, ça... Mais c'est vrai que on est dans une ambiance, assez film d'action, limite américain. Ouais.
Attention, sondage express, dans les gens qui sont intervenus ce soir dans le podcast... Combien y a-t-il de rôlistes? Répondez-moi dans le chat, je donnerai la réponse tout à l'heure. Je suis curieux de le savoir. Personnes qui ont fait du jeu de rôle ou qui en font encore.
Un téléviseur
83 cm a gagné, nous dit Isaac. Isaac offre un téléviseur 83
cm. Si vous arrivez en dessous d'un téléviseur 83
cm, 83 pas 82. Il offre le téléviseur s'il est 83 pas 82. Donc.
Donc plusieurs arcs pour qui permettent dans ce manga de mieux appréhender l'environnement et les personnalités des personnages, avec en trame de fond en fil rouge, on dira, les rapports entre Levi, donc la maniaque de la gâchette qui a vécu une enfance pas toujours très drôle, et Rock, qui jusqu'à présent avait une vie tout à fait normale, études, etc., grimper les échelons petit à petit.
Ok.
par rapport au genre.
Là, c'est marrant, je m'entends en parallèle, il y a un truc bizarre. J'ai l'impression d'entendre mon son en parallèle. J'ai une boucle quelque part. Mais une boucle très longue, donc c'est pas très chiant, et là, elle est partie, j'ai l'impression. Déjà, est-ce que c'est une série finie? Combien il y a de tomes? Parce que moi, c'est toujours le truc qui me fait peur dans le manga. Ouais. Parce que par exemple, j'ai envie de lire One Piece, ça a l'air trop trop bien, mais... Mais 55 ou 56 tomes, un truc comme ça, franchement, plus que ça, ça me donne super pas envie, en fait. Mais pourtant, on m'en dit tellement de bien que je suis tenté. Là, déjà, est-ce que je peux réussir à me lancer dans Black Lagoon sereinement?
Oui, actuellement, 9 tomes sortis, un 10e au Japon.
Donc, oh oui, tranquille.
6,95€ le tome.
Ça. Ouais, classique pour du manga. Il y a beaucoup de... Enfin, la série est prévue pour s'arrêter ou le mec il va continuer jusqu'à ce qu'il meure? Ou que ça marche plus?
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'annonce d'arrêt.
Il ok. Continue, pour le scénario, qu'est-ce que tu nous as dit? Tes deux mots.
J'en ai déjà parlé. C'est oui. L'arc narratif.
L'arc narratif, oui, c'est vrai.
Et effréné.
Effréné. Oui, non, mais je suis au type
orange. Moi, je te fais des blagues et en plus, je n'ai pas.
C'est oui, non, mais c'est vrai, je suis au type orange là, je suis désolé.
Il y a quand même quelqu'un qui a suggéré qu'il fallait un petit jingle spécial pour les blagues de Thieu. Hein.
Un petit jingle spécial pour les blagues de Thieu, eh bien, je vais
si,
faire un.
Si c'est Merton, je ne parle plus.
Si c'est Merton.
Je ne citerai pas.
D'accord. Ok. Pourquoi
Merton, merci.
Pourquoi effréné?
Ah, parce que ça part à toute vitesse. Hein. Ça s'arrête pas. Ça des fois est dans tous les sens.
D'accord. C'est rapide. C'est il y a. Déjà, est-ce que c'est le genre de truc on peut dire genre il y a 4 tomes, t'as un arc qui est comblé et tu peux faire une pause en disant je peux attendre un peu avant la suite, ou est-ce que pour le moment sur les 9 tomes ça s'arrête jamais quoi?
C'est des arcs, donc tu peux terminer le premier tome, l'arc se termine, le deuxième tome, je crois que l'arc se finit dessus d'après, mais t'as des histoires qui se terminent.
Tu connais un petit peu Bleach?
D'accord, non je connais pas bien Bleach, alors voilà, Thierry me parle de Bleach, mais je vous le dis, moi j'ai un gros problème sur le manga, tu as à peu près le même, en fait on est trop has-been.
Je n'en lis pas.
On n'en lit pas, on a quelques vieux trucs, un jour on fera un intégral Gun mais un intégral Nausicaa. Mais à part ça, je veux dire, après 97, j'avoue que le manga, j'ai un peu laissé tomber, donc je suis un peu has-been. D'ailleurs, je pense que on peut l'annoncer, tu vas bientôt régler ce problème-là, car nous allons avoir une rubrique avec Matt, qui va nous faire une fois par mois une rubrique manga, ce qui va nous permettre de combler une lacune assez énorme en ce qui nous concerne.
Je crois que j'ai plutôt
l'air pour l'emploi,
moi.
Pour l'emploi. Ok. Au niveau du dessin.
Je vais plutôt parler du genre.
Ah, du genre, vas-y.
Donc, genre, action et humour noir. Clairement. Donc, Black Lagoon...
Ouais, il a encore utilisé trois mots.
Tu verras, je ferai un effort sur le dessin, alors. Black Lagoon, si je devais décrire ça, ce serait un cocktail explosif. Dedans, tu mets de l'humour noir, de la violence, de la vulgarité, des scènes d'action, du second degré, bref... que du bon, quoi.
La vulgarité, surtout, c'est...
Il sait vendre.
Il sait vendre, non, c'est bien.
Avis de Aude sur le dessin, elle parle d'un dessin fluide, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, Aude nous parle d'un dessin fluide, qu'est-ce que tu en penses?
Tout à fait, oui, fluide, limpide, esthétique, lisible. Le reproche qu'on pourrait peut-être faire, c'est que le fond est pas toujours très détaillé, mais ça permet de focaliser beaucoup plus facilement sur l'action, et on se prépare, en fait. Il y a deux choses très
sympathiques. Attention, on est en train de te perdre au niveau du son.
Allô, Toubib,
on te perd, Toubib,
on te perd. Matt, tu es où? Matt. Allô, Toubib.
Allô.
Oui, tu es très faible.
Tu es très très faible. On ne t'entend plus.
J'essaie de mettre mon micro au fond de la gorge.
Non mais c'est ça, non mais attends, je suis désolé, c'est un jeune père, je comprends tout à fait qu'il se dit si je réveille mon gosse, je vais me faire tuer et par mon gosse et par ma femme, donc il essaie d'y aller tranquille. C'est ça?
À peu près.
Mon avis est bonne. Donc ok. Donc ouais, le dessin, vas-y, je t'écoute.
Donc oui, dessin lisible, esthétique, ça permet de suivre bien l'action. Un des points forts du manga, c'est que de ce manga-là, c'est que les armes sont et les véhicules sont très très bien détaillés, sont très bien modélisés, les personnages ont une très forte personnalité, ils sont
reconnus. Attends, tu nous parles des armes et des véhicules super détaillés, je me crois dans un scénario cyberpunk, tu vois. Voir Shadowrun. Excuse-moi, t'as les caracs qui apparaissent quand ils apparaissent, c'est ça?
Il n'y a pas de tech, mais en gros, les côtelasses qui est l'arme préférée de Lévi, sont très très bien dessinées et d'un tome à l'autre.
C'est un psychopathe le dessinateur, il te fait des dessins de malades d'armes, c'est son truc préféré, c'est ça?
Je pense que ouais, il doit être bien fan des armes à mon avis. Ouais.
Ok.
Sur le genre, pour finir rapidement, il y a des grands moments d'humour noir. Il y a une chose qui est vraiment très sympathique, c'est que clairement ils sont dans une ville de vice. Vraiment terrible. C'est une ville de Thaïlande qui est remplie de criminels qui ont voulu fuir le tout ce qui pouvait leur tomber dessus et qui est dominée par la triade, la mafia italienne et la mafia russe. Et les personnages, en règle générale, sont, je trouve, très attachants parce que ils sont très humains. Typiquement, ils usent de tabac, de drogue, d'alcool en tout genre. Et c'est pas le personnage propre sur lui qui va sauver la veuve et l'orphelin. Bien au contraire, il y a un des personnages. Ça lui fait rien d'aller récupérer de l'argent sur des morts. Dans la ville, il y a une église.
Je suis désolé. Quand tu tues quelqu'un, tu fais des poches pour savoir ce qu'il a. Attends. Une phrase de Isaac. Vas-y Isaac, tu as le micro.
Ça c'est un vrai passé de rôliste, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on trouve un corps en fouille, quoi. Ça c'est juste incontournable, impossible.
Sauf que quand t'es dans un sous-marin le sous-marin allemand coulé de l'époque, c'est un peu bizarre pour un type qui a jusqu'à présent été normal et vivait dans une civilisation japonaise
très carrée.
Très carré, tout ça, ça pose quelques petits soucis. Donc, bref, un manga que j'ai vraiment apprécié et qui a un punch monstrueux et qui franchement, même quand il parle de sujets très sérieux, très lourds, il y a un côté décalé qui permet de justement alléger un peu cette ambiance. Pour ceux qui ont vu l'animé, c'est très 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 fidèle. Et
Aude nous dit que les armes sont un peu des persos à part entière, en fait.
Tout à fait. Oui, c'est les armes. Il y a une part belle à certaines armes. Mais la série n'est pas terminée pour Upgrade qui est dans la chatroom. Il continue encore. J'avoue ne pas savoir combien il compte faire de tomes.
Ok, ça sort tous les combien de temps?
Oula. C'est assez erratique. Là,
donc tu peux pas.
Il y en a deux qui sont sortis très rapidement. Ensuite, il a fallu attendre un peu. Puis deux autres sont sortis très très vite.
C'est chez quel éditeur? C'est chez quel éditeur en France?
Chez Glénat.
Glénat
pour 6,95€ et il y a environ 200 pages par tome.
Ouais, prix du manga qui devrait bientôt passer à 7,10€ grâce à la joie de l'augmentation de la TVA qui devrait peut-être nous arriver. Ouais.
Donc on a parlé avec Merton.
Bien peu. Eh ben merci beaucoup. C'est ça a l'air très très intéressant. Moi ça m'a donné envie aussi. Tu as rajouté quelque chose à ta liste, Théo, d'achat?
Je les hais.
Tu les hais tous?
Bah parce qu'en fait, Copain Noël il a déjà eu la liste. Donc là du coup.
Comment ta liste?
Non, ça c'est une liste pour ma gueule quoi. Donc.
Ta liste pour ta gueule. Moi j'ai du bol, j'ai mon anniversaire juste après Noël, donc je peux en rajouter une couche, tu vois.
Mais moi c'est déjà fait.
Voilà, donc on a de quoi faire. Matt, nous on te va te voir, tu vas nous faire une rubrique manga tous les mois donc dans le One A Club. C'est une des nouveautés qu'on annonce, hein, ça y est, c'est officiel. Parce que toi tu es un gros lecteur de manga, ce qui n'est pas notre cas. Attention, on a une question sur le chat.
À quoi
ça Cobalt vient de faire sa première wishlist de Noël. Et l'autre question, vas-y, je t'écoute. Attends, c'est dur de venir sur l'écran. L'héroïne est bien enroulée et en mini short pour les pervers, nous dit Aude.
Oui, héroïne... Toutes les femmes sont très très belles et en règle générale même ont un charisme très impressionnant. Je me souviens pas de
ce charisme cas très impressionnant à la Sonia dans Battle Chaser ou
leur personnalité même.
Une forte personnalité. Okay. Bonjour, je cherche une blonde à forte poitrine, enfin forte personnalité, je veux dire.
Samantha Fox.
Samantha Fox. Boys, boys,
boys. Dans Battle Chaser, c'est même pas Samantha Fox, c'est au-delà.
On te passe Isaac, on va te passer Battle Chaser. Voilà. Ok. Eh ben merci beaucoup, ça donne envie en fait. Moi je sais que j'ai beaucoup de lacunes en manga parce que ce que je disais c'est que après les années 95-96, à l'époque où les éditeurs ne nous sortaient que des shonen à deux balles où les mecs, enfin en gros c'était sympa pendant deux tomes. Et puis après c'était ouh je cherche à trouver le pouvoir super plus balèze pour battre l'adversaire super plus balèze et il a trouvé son nouveau pouvoir machin chose, c'était très répétitif. Et c'est vrai que j'ai raté pas mal de trucs. Je me suis intéressé un peu au seinen, on a déjà parlé de ce que fait tout Urozawa, on est un peu fan aussi de Urozawa. Mais je pense qu'il y en a d'autres qu'on connaît pas et qui vaillent le coup. De toute façon, il faudra un jour de toute façon, c'est sûr qu'on parle de Gunm parce que Gunm c'est top et de Nausicaa parce que Nausicaa c'est un truc monstrueux de la mort. Ouais, vas-y, tu voulais dire quelque chose, Matt?
Gunmu, la première série, le Last Order, je trouve qu'il se perd un peu. Mais
Last Order, j'ai pas suivi du tout, parce qu'en fait, comme j'ai acheté Gunmu en version intégrale dans les gros tomes de la mort, de chez Glénat, j'ai pas eu envie de me lancer derrière sur la suite. J'attends toujours le film que Cameron est censé sortir un jour. On l'attend. Dans la série Dark Angel, il s'était pas mal basé sur ses idées de Gunmu, on retrouve quelques thèmes présents.
Ouais, sauf sur la saison 2 où c'est parti en
sucette. La saison 2 c'est parti en sucette, oui je suis d'accord. Je suis en train de la regarder, donc j'en sais quelque chose. Ok, eh bien merci beaucoup Mathieu, donc on se retrouve très 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 bientôt pour continuer à se faire une fois par mois un manga. Tu vas nous donner envie de lire des trucs, tu vas nous faire dépenser des sous, nous allons te haïr.
Avec plaisir.
Oui, au fait, juste pour te dire que je t'avais salué la dernière fois que tu avais eu un chat avec Pied-Pied, mais que Pied-Pied n'avait pas mis mon micro, donc du coup je saluais dans le vide. Et je me disais, putain, Matt, il me fait la gueule, il me parle même plus et tout. Mais bon, c'est pas grave.
Ouais.
C'était juste pour le dire comme ça, voilà, c'est fait.
Et tu vois, il me connaît plus, c'est plus qui je suis.
Voilà, oui, voilà. Du coup, c'était un malentendu. C'est la faute à Pied.
C'est super mesquin.
En fait.
Il fallait le faire.
Pour le coup, tu sais quoi? Tu vas nous parler de SOS Gwenmore. Alors nous avons décidé pour ces deux ans de parler des plus mauvaises BD que nous avons dans notre bibliothèque. En gros, Kyo a dû me sortir la plus mauvaise BD qu'il avait dans sa bibliothèque, sauf qu'il vient de me la refiler, j'ai même pas fait. Et elle est assez terrible en soi.
Pendant que je te parle de ça, tu feuillettes.
Voilà. Lui, je lui ai refilé un truc qui s'appelle...
C'est mon truc, tu me l'as refilé, c'est moi qui me déroule.
Ça s'appelle SOS Gwenmore. Je dis juste le contexte, c'est mon père, qui était gendarme maritime... qui me l'a ramené à la maison. SOS Gwenmore, c'est quoi l'éditeur?
Fleurus.
Fleurus, ils ont sorti des trucs d'un point de vue historique assez sympa. Bon alors moi je vais regarder Alerte sur Uxia, que tu m'as ramené aux éditions Planète Énergie. Vas-y, je t'écoute, voici ton titre sur SOS Gwenmore. J'attends tes mots. Hein. Tu as l'air...
Publicité bénévole. Voilà. Ce seront mes mots pour SOS Gwenmore. Déjà, on va quand même essayer de situer le truc. C'est un livre qui est paru donc pour la SNSM, qui est donc la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Alors, j'ai un gros souci, c'est que... Bon, c'est quand même des personnes qui sont toutes bénévoles, qui travaillent... nuit et jour pour aller sauver des marins en mer.
Pardon, des pauvres cons qui font des conneries en mer, en se la pétant.
Oui, enfin, ça peut aussi sauver des vrais marins qui sont pris par...
Oui, mais la plupart du temps, ils sauvent des pauvres cons qui font n'importe quoi en mer.
Ça va, enfin, après, c'est parisien aussi, ça envie, quoi, mais...
Non, je vais pas dire parisien, il y a des marseillais aussi, genre, qui se la pètent, et qui vont en mer en se disant, bon, c'est un bateau, c'est trop facile, et qui ont besoin d'être sauvés. Bon.
Et donc voilà, il nous donne un bouquin de la SNSM, donc vendu pour le bien de la SNSM, qui raconte un petit peu l'histoire de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. On a un petit... On a même une petite historique de toute la SNSM avec des photos d'époque, un truc... je sais pas si vous le voyez, hein.
Pour ceux qui ont la vidéo, c'est vague. C'est loin, il faudrait que tu te rapproches de la webcam pour que les gens voient.
J'essaie de me rapprocher.
Attention, là on fait un truc super radiophonique, il vient de faire tomber le micro, connement, bravo Thio. Franchement ces types ils sont bons, Isaac est un saveur, franchement. Merci Isaac. Attends, en plus tu fais vachement bien l'accent d'Isaac. On va te donner la parole le temps que Thio arrive à faire un truc, tu vas devoir combler. Vas-y Isaac, c'est à toi.
Alors vas-y, maintenant, tu vois, tu prends le micro et puis tu te prends un petit peu pour Eminem, là. Et puis tu mets le micro, mais pas attention, là. Non, c'est trop près de la BD, là. La BD, elle va germer, là. Hein. Voilà, c'est très bien, c'est magnifique, hein. Attention le dessinateur, t'es au chômage, images. Maintenant t'es pompiste.
Le problème c'est que Isaac il va meuler pendant 2 heures. Hein. Donc là voilà, donc.
Tu me laisses le mic moi j'y vais maintenant.
La petite historique, donc tout en noir et blanc avec un joli texte et tout, on repart sur Napoléon III avec le naufrage de la Sémillante qui a touché toute la France, tout le monde a pleuré. Et on s'est dit, tiens, on va faire une société de sauvetage en mer.
Bah, ça va, ne fais pas ton speech super intello là, man.
Donc du coup, c'est au dessin, c'est Pierre Brochard, au scénario, c'est le même.
Et au chômage, c'est le même.
Et bon, bah, ça raconte une histoire d'un sauvetage en mer, un truc...
Merci Isaac.
Un truc palpitant, un récit de folie, des dessins qui sont à proprement parler exceptionnels. Je pense que pour recueillir des sous pour la SNSM, c'était un truc qu'il fallait, quoi. Oui. Ben écoute, ça pique les yeux, quoi. Je veux dire, on peut pas dire autre chose.
Vous le voyez pas. C'est le premier épisode de Martine à la plage.
Là, ça pique, quoi, effectivement. Tu sais quoi? Je l'ai refilé, je l'ai même pas relu, en fait. Oui. J'ai pas osé.
Alors, juste quand même pour vous dire que, voilà, que faire pour aider la SNSM, parce qu'il y a quand même, du coup, un petit truc, hein. Les adhérents payent 150 francs par an. Les donateurs 250 et les bienfaiteurs, en personne physique ou morale, on monte à 2500 ou à 5000 francs.
Hein. On est vraiment sur un truc ancien, quoi. Avant 2000. Hein.
C'est... Voilà, donc bon, bah, c'est un bouquin fantastique, un truc qui a été oublié au fin fond de la bibliothèque de pied. Et malheureusement, il a eu l'audace de le ressortir aujourd'hui. Voilà, je n'aurais rien d'autre à dire. Sinon que l'histoire de sauvetage est palpitante. On vous raconte par exemple que pendant presque plus de 10 heures de recherche, ils vont chercher un bateau à peu près dans une zone qui doit faire a priori à vue de nez un truc comme 10 km sur 10 km, mais que pendant plus de 10 heures, avec la tempête, les vagues, la pluie, la nuit, ils ne le trouvent pas ce bateau. Mais ils reviennent, ils font le plein au port, ils repartent. Et là,
le plein au port, combien de temps ça dure leur page, le plein au port?
Si, ils te disent qu'ils changent l'équipe aussi, parce que les mecs, au bout de 10 heures, ils sont un peu canés quand même.
Tu m'étonnes.
Donc du coup, ils repartent, parce que c'est des bénévoles, les mecs, ils ont autre chose à foutre.
Oui, hein, je comprends.
Au bout de la nuit, si tu veux, le médecin, il va faire sa journée.
Oui, mais il
à l'hôpital, parce qu'il fait sa garde ensuite, hein, de 72 heures. Oui, et donc, là, ils repartent pour le sauvetage. Et là, ils y arrivent.
D'accord.
Et forcément, pour créer une sorte de petit lien avec les personnes qui étaient perdues, c'était un bateau d'un gars qui avait perdu son père en mer avant. Et donc, du coup, on a un lien affectif parce que le capitaine du bateau de sauvetage, il fait, ouais, tu vois, je t'ai retrouvé, on est content, mais heureusement, t'inquiète pas, nous, c'est notre boulot, on est là pour ça. Il nous faut un petit chavirage, histoire de dire quand même que c'est un peu rock'n'roll, qu'il y a un petit peu des cascades.
C'est un one shot ou c'est suivi?
Ah non.
Est-ce que c'est un one shot ou suivi, nous demande Isaac?
Bah écoute, heureusement que c'est un one shot.
Il y a plusieurs tomes dans la série Espace
non,
chez Florus.
Non, Espace chez Florus, oui, mais enfin pour la SNSM, ils en ont fait qu'un. Peut-être qu'il faudrait qu'ils en fassent un nouveau, mais un truc un peu plus palpitant, moins historique. Un bon bouquin, quoi.
Ok. C'est à mon tour, c'est ça? Je dois enchaîner?
Voilà, juste pour meubler le temps que tu finisses de lire le mien, qui est exceptionnel aussi. Ils ont fait aussi Ariane au niveau espace. Ariane et le journal de l'homme dans l'espace. Ils vont faire paraître, attention, parce que alors là, pour ceux qui sont un petit peu pointus, ils vont faire paraître aussi Hermès. Hein. Le projet Hermès qui en fait n'a jamais abouti, hein. La petite navette
Abibolo a abouti.
Vu que la navette non, je pense que la BD n'a pas abouti pour le projet Hermès.
La BD a
décollé en Hermès dans le mur, nous dit Isaac.
Ah oui, non, parce que le projet Hermès a été un petit peu abandonné il y a des ça au moins 15 ans. Voilà, donc c'est un truc très récent, un truc de fou, quoi.
La prochaine fois, je te sortirai Ravage 2099, tu vas voir comme c'est un truc énorme.
J'espère que ce sera plus passionnant que ça.
C'est possible.
Oui, aussi juste comme ça, le journal des porte-avions, hein, sur Horizon, donc toujours chez Florus, le journal des porte-avions français, y a un truc qui ressemblerait vaguement à F4 Phantom. Et pour ceux qui connaissent, c'est pas du tout récent quand même comme avion, hein, c'est plutôt le coucou du Vietnam. Et je crois même que c'est un Corsair arrière, un AV8 en dessous. Et là aussi, ça pique, quoi. Ça, c'est ancien, quoi.
Il y a Papy Boynton qui se retourne dans sa tombe.
Papy Boynton se retourne dans sa tombe, nous dit Isaac.
Je pense que Papy Boynton, s'il avait continué 10 ans plus, il pouvait voler là-dessus. Voilà.
Ok. Bah, tu sais quoi? J'enchaîne avec Alerte sur Ouxia. Déjà, on peut dire que Randall Flagg nous a bien avancé dans le dessin. Alors, je me rapprochais de la webcam pour le voir. Parce qu'en fait, là, c'est sur l'autre ordinateur qui est loin, là, loin devant, vers vous, public.
Ouais, si tu m'en tiens, en fait, je le verrai vachement mieux.
Voilà. Alerte sur Oxia est une bande dessinée sortie chez Planète Énergie. Je pense qu'en fait, on est des spécialistes pour les plus mauvaises BD qu'on a dans notre, bibliothèque sur les BD. Non,
mais,
à thème.
Mais il a une vraie histoire celui-là.
Celui-là a une vraie histoire. Alors en plus, ce qui va être pas hallucinant, c'est que je connais la moitié des auteurs qui sont dedans et ils sont bons quoi. Je veux dire,
c'était une BD totale, hein, vendue gratuitement pour un plein d'essence. Et comme je suis un steed, forcément, moi, quand on dit un truc gratuit, des BD, je fais ouais, vous savez quoi, j'ai une BCD à l'école, et vas-y, envoie, écoule tes tomes. Et je suis reparti avec 4-5 tomes, quoi, tranquille.
Cool. Alors, Alerte sur Oxia, c'est le tome 1. Il y en a eu d'autres?
Mais j'ai pas refait le plein là-bas.
Ça s'appelle Le Secret de l'énergie. Scénario de Jacques Lerouge, Delpix, qui est un scénariste qui a fait des trucs sympas derrière. Une conception de Sabine de Benji. Alors je pense que dans le terme conception, il devait entendre la personne qui gère l'équipe technique. Isaac, arrête de rire. Boîte en petit punch, et voilà. Et quand même, au dessin. Attention, je vais vous citer des putains d'auteurs de malades.
T'as failli dire de merde quand même.
Non, mais de merde, dans le sens malade. On a Pixel Vengeur, j'adore ce qu'il fait. Jean-Louis Marco, c'est trop bien. Laurent, je le connais pas. Alto, c'est super. Boost, Kilofer, quoi. Putain, Kilofer. Jacques Daumont, Jacques Lerouge et Libon. Putain, Libon, il est énorme comme auteur. Ouais. Moi, j'adore ce qu'il fait avec Lézard, son Lézard géant, qui est paru dans Spirou. Donc, on a plein d'auteurs géniaux. J'avoue que Thio me l'a refilé un peu à l'arrache, là, tout de suite.
Et donc, en fait, du coup, je lui ai coupé le plaisir d'un livre exceptionnel.
Voilà, donc je l'ai vaguement feuilleté, et en gros, bah, en le feuilletant, il y a des dessins vachement sympas. Maintenant, bah, ça dépend, parce que, en fonction des auteurs, c'est plus ou moins sympa. Mais il y en a certains, c'est super sympa. Ça donne très envie. Je vais avoir la critique la plus bidon du monde. Libon est égal lui-même, j'attends d'ailleurs ses histoires de lézard ou bien.
Tu parles que de ça.
je n'ai pas le droit de varier.
Ouais, vous savez quoi, Libon, il a fait des trucs exceptionnels avant. Et là, en fait, actuellement, il prépare une nouvelle sortie qui va être exceptionnelle aussi. Non, parle de ça.
Je parle des trucs.
Parle de ce truc-là, là.
Donc, Libon a fait l'épisode 9, qui est fortement bien dessiné. Parce que Libon, il dessine bien.
Et le scénario, tu mettrais quoi comme
le scénario, bah, je t'avoue, j'ai pas eu le temps de la lire encore. Donc, au scénario, je pense que c'est
inconnu et peut-être,
nous propose Isaac. Je pense que le scénario, en gros, ça nous raconte comme quoi l'énergie, c'est super important et qu'il faut faire vachement gaffe à ce qu'on dépense et que Total, en fait, eux, ils font vachement attention à l'énergie pour protéger le monde et qu'on ait un univers plus beau. Et j'ai bien résumé?
Wow.
Toi qui l'as lu?
C'est ça. Par exemple, tu vois, enfin, éteins la lumière et tout, ton truc. Voilà.
Recherche ton côté sombre.
Il faut bien manger.
Il faut bien manger, voilà.
Des bons auteurs, mais à un moment donné, ils ont besoin de manger.
Les bons auteurs ont besoin de manger, nous dit Isaac, effectivement. Quand Total paye, bah Total, ils ont le cash, quoi. Parce que là, franchement, je viens de l'ouvrir la BD, rien que le nom des auteurs, mais j'hallucine, quoi. Il y a des putains d'auteurs. J'adore. Pixel Vengeur, il a sorti un truc il y a peu longtemps chez Zut, j'ai oublié l'éditeur, c'est un éditeur marseillais en plus, j'ai trop les boules.
Très étrange.
Non, pas très étrange.
Le Suite de Chat.
Oui, il a Oucha pour
publier. Oui, le Suite de Chat, oui,
j'adore. Enfin bon, c'est que des auteurs que.
Vie de merde, c'était Suite de Chat.
Ouais, c'est ça. Plein d'auteurs, attention, c'est dans la bibliothèque par là. Le merde, je le vois, il est là-bas. Isaac, va chercher la BD. Rends-toi utile. Chope-nous le nom de l'éditeur. Allez Isaac, attention, tu as un casque, tu as un fil au casque. Il va nous choper, il est là.
Même pas mal,
éditeur marseillais, super sympa. En plus, le patron de la maison d'édition a un prénom super sympa, il s'appelle Pierrick. J'aime beaucoup.
J'arrive pas à faire le bruit.
Ouais, t'arrives pas à faire le bruit du... Ok, mais tu fais vachement bien... Oh, t'arrives vachement bien à faire gonfler ta joue. Donc, Alerte sur Oxia, les auteurs ont l'air super sympas. J'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire. L'éditeur Planète Énergie, je pense qu'il a pas dû sortir 50 trucs. Par contre, bah, chez Total, des fois, on peut avoir des bons trucs, quoi.
Ouais, ou pas.
Un bon plein.
Bah voilà, bah, je crois que je vais devoir faire un truc, c'est... On est en train d'arriver à la fin.
Ouais.
On est en train d'arriver à la fin de l'émission. Alors attendez, je suis en train d'essayer de
faire. Dommage, Emir qui. Ah. Ah
Non, c'était un truc à la con.
Non, ça peut pas être mon portable.
Non, c'est moi qui fais des bruits.
Désolé,
Emir qui? Ah, Emir qui, c'est la fin. Elle vient d'arriver.
Qui était en plus notre première invitée, je crois.
C'était une de nos premières invitées, Emir qui.
Je n'étais pas là, mais c'était pas là, ouais. Une première invitée.
Oui, que j'aime beaucoup. Bonjour, Emir qui. J'aime beaucoup ce que tu fais.
On recommence.
On recommence du début.
Hey.
On remet ça, ouais, c'est ça. Donc, Virki, je suis désolé, mais en théorie, étant donné qu'on enregistre en live, je devrais réussir à le balancer d'ici dimanche. Je pense que dimanche, je devrais le mettre en ligne. Je pense que quand je vais le réécouter, je vais avoir les oreilles qui font faire oh putain, mais c'est pas possible, on n'a pas pu enregistrer ça, surtout pour les deux dernières chroniques, qui sont bien pourries.
Ah, Virki, tu rigoles ou quoi?
SOS Guam Mort, ça veut dire.
Non, juste une chose quand même, donner à la SNSM.
Non, mais la SNSM, c'est les mecs qui sont bien.
Ils sauvent des blaireaux, mais ils sauvent aussi des gens bien.
Ils sauvent beaucoup de blaireaux.
Non, c'est vrai. Beaucoup de blaireaux, mais ils sauvent aussi des gens bien.
Ouais, ils sauvent aussi des gens bien. Voilà.
Il y a Giba qui veut aussi qu'on recommence.
Giba veut qu'on recommence aussi.
Il y a Merton qui était d'accord pour faire un truc sur Skins.
Il est d'accord pour faire un truc sur Skins Party, parce que lui, il veut vraiment le vendre pour Angoulême.
Non, en fait, il est trop déçu, c'est parce qu'il aurait très. Enfin, il aurait voulu avoir une vie comme ça. C'est les soirées qu'il voulait.
Il voulait ces soirées-là. J'ai pas eu ce qui est parti, mais je.
Mathieu veut qu'on arrête, par contre.
Mathieu veut qu'on arrête parce que son fils va criser, ok.
Félicitations, Mathieu, parce que j'ai pas eu l'occasion de te le dire.
Félicitations donc à Mathieu. Randall Flagg a progressé dans ses seins, je crois qu'il a fini à peu près. Va falloir que je m'approche de la webcam pour regarder. Vous allez me voir en gros plan, attention à vous.
Oula!
Éloignez-vous, fermez les yeux. Attention, ça pique aux yeux, ce n'est pas la SNSM pourtant.
Bon Randall, on attend que tu nous envoies le dessin en super bonne qualité pour qu'on puisse le mettre sur le blog en même temps que l'épisode, ça nous fera super plaisir. C'est gribouillon.fr/.p=. Putain, l'adresse de la mort.
1226.
Ok. On mettra ça avec le podcast, c'est super sympa. Pour l'avenir du One Eye Club, qu'est-ce qu'on a prévu? En fait, Thio, il est au courant de rien, parce que lui...
J'ai prévu plein de trucs. J'ai appris que nous allons avoir quelqu'un qui va venir nous faire donc du manga, ce qui veut dire que je vais bientôt être au chômage. Merton fait les news, donc là aussi, moins de taf pour moi, c'est super.
Non, Matt, on va faire un truc. Les bandes dessinées...
Matt va pouvoir faire, oui. Attends, je passe la passe à Isaac. Isaac, il donc, parle pas dans le micro. Attends, vas-y, Isaac.
Les bandes dessinées pourries.
La bande dessinée qui existe dans tout ce qui est journaux quotidiens. Et là, je pense que tu auras du job, pour un petit moment, quoi. Je veux dire, il en sort tous les jours, Matt. Tu vas te régaler. C'est rapide à lire, c'est facile à lire, régale-toi. Il y a personne qui va le faire à ta place en même temps parce que tout le monde s'en branle. Donc, fais-toi plaisir.
Super, merci.
Voilà.
Je pense que si tu prends Upgrade, tu prends Sachet. Ouais. Merton, tu le fais une fois sur deux.
Ouais.
Tu fais tes émissions tout seul.
Tu mets émissions.
Et ça devient vraiment le Wayne Club.
Tu prends Philippe aussi, pas mal.
Philippe aussi. Non, franchement, voilà. Il a un super frère. Je suis une. Ouais.
Giba propose la BD pour les enfants.
Giba propose la BD pour les enfants, effectivement. En tant qu'un site, tu pourrais nous faire un bon sujet sur la BD pour Mom.
Je pourrais.
Attention qu'il y a une connerie qui en arrive sur le chat.
Il y a Ido qui dit que ça embauche à mort au One Night Club, c'est pas la crise pour nous.
C'est pas, ça embauche à mort au One Night Club, c'est pas la crise pour nous.
Je voilà. Vais vous dire, ça paye pas super bien quand même.
Ça paye pas super bien, non, ouais, c'est sûr. Voilà, on paye au Rhum, mais il faut se déplacer jusqu'à Marseille, voilà, c'est pas évident. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était franchement pour le premier live, moi je me suis éclaté, c'était super sympa. Au niveau des nouveautés, il y a donc Merton va continuer les news. Moi je trouve ça génial qu'on ait quelqu'un de plus dans la boutique. J'adorerais qu'on puisse le faire en live. C'est un peu dommage, mais bon, on est un petit peu éloigné. Alors autant te dire que Bordeaux-Marseille, pour se déplacer, c'est le pire du monde. Pour te dire, je vais aller à Angoulême, je sais même pas comment.
Non, Bordeaux-Marseille, c'est pas le pire.
Ah, c'est quoi le pire?
Marseille-Angoulême,
oui, non, je suis d'accord. Marseille-Angoulême, oh, putain de merde.
J'ai connu.
T'as connu? Ouais,
moi, c'est le Limousin.
Le Limousin, moi je vais tester le Marseille-Angoulême.
C'est à côté d'Angoulême.
Moi je vais tester le Marseille-Angoulême, ça va être horrible. Nous allons aussi avoir donc Mathieu, la concurrence va être rude, qui va nous parler de manga une fois par mois. On va essayer d'avoir une rubrique manga parce que je sais qu'on a un peu des lacunes à ce niveau-là. Dans le courant de l'année, je vais essayer de faire des t-shirts. Je vais essayer de tabasser mon frère pour qu'il me fasse des dessins trop bien parce que, en fait, voilà, je dessine mal. J'ai quelqu'un qui dessine bien, j'ai l'impression qu'il y a un truc de rigolo qui est passé sur le chat.
C'est Aude qui nous rajoute. Aude. Clermont-Ferrand, Zurich, c'est compliqué aussi.
Clermont-Ferrand-Zurich, c'est compliqué, oui. Clermont-Ferrand-Zurich, oui. Oui, voilà. Strasbourg-Singapour aussi. Et pourtant, Cobal qui nous écoute est souvent sur Singapour. Non, il faut le savoir. Qui fait un super podcast sur le jeu indé qui s'appelle Indie Gamecast, qui est vachement bien. Il fait un podcast sur le jeu de rôle qui s'appelle Radio Rollis, qui est vachement bien aussi. Voilà. C'est la pub pour les copains. Ça va être super bien. J'espère qu'on va devrait faire des t-shirts. Je suis en train de bosser sur les t-shirts depuis un moment. J'espère que je vais réussir à les finir pour avoir des t-shirts qui soient cool. Je vais.
Voilà.
Jiba propose un t-shirt, voilà. Oui.
Concours de t-shirt
One Eye
Club mouillé.
Oh, concours de t-shirt One Eye Club mouillé. J'attends le t-shirt One Eye Club mouillé. Il faudrait déjà qu'on fasse des t-shirts One Eye Club.
Faut déjà le t-shirt One Eye Club. Et ensuite, voilà. On fait un concours de photos avec les t-shirts mouillés.
Voilà.
Cobal fait de la pub pour radio-release.net.
radio-release.net pour Cobal, au niveau de la pub. Donc, moi, je sais que les t-shirts devraient arriver bientôt. Je vais faire une boutique. Je vais même faire un t-shirt exclusif pour Bad Geek pour les remercier de nous avoir proposé de faire ce live qui marche plutôt pas mal, j'ai l'impression. Enfin, nous, de notre côté, on a l'impression que ça marche. Maintenant, de votre côté. De votre côté, j'espère que c'est bien.
Personne nous a écouté parce que
ça voilà. Il y a encore 20 personnes dans la chatroom et franchement, j'hallucine parce que je m'attendais à avoir 4 pecnos. Je trouve ça super génial. Merci beaucoup de nous écouter. On se retrouve normalement. Je devrais mettre cette émission en ligne ce dimanche. Dans 15 jours, elle est déjà enregistrée. Il y a la prochaine émission du One Day Club normal. On devrait avoir des invités bientôt. On devrait même avoir des concours normalement avec LMCBD. Je suis en contact avec eux pour en proposer des concours qui devraient être cool.
Et Jiba propose encore un truc sympa.
Jiba propose encore un truc sympa.
Podcast crossover avec Cobal sur les JDR.
Alors, le podcast crossover sur les JDR Adopter BD. On a commencé à le faire avec Cobal. On a commencé à l'enregistrer. On a fait un truc. J'avoue, on a fait ça tellement à l'arrache que je suis pas sûr que ce soit super top. Normalement, ça nous fera un super bêtisier, mais pas forcément un bon podcast. On va l'envoyer. On va voir ce que ça va donner. Oulala, voilà. Commentaire de Cobal. Et Randall nous dit, vous pourriez peut-être faire un crossover. Oui, on est parti pour le crossover parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les bandes dessinées adaptées en jeu de rôle et les jeux de rôle adaptés en bande dessinée dans les deux sens. C'est un sujet super passionnant, je trouve. Moi qui suis rôliste, j'adore. Ne serait-ce que.
Ancien rôliste, hein, parce qu'on joue plus.
Oui, ça, on fait des podcasts à la place.
Si, une fois par an.
Une fois par an, ouais. Quand on a un pote qui vient de Paris pour nous faire jouer.
Juste une petite remarque, cette année il est descendu et on a fait Zub.
C'est vrai que la dernière année, mais voilà, je pense que voilà.
C'était pour le placer.
Les enfants, c'est l'ennemi du rôliste.
Ou les femmes aussi.
Ou les femmes. Les enfants et les femmes, c'est l'ennemi du rôliste.
Et souvent, t'as les voilà. Deux en même temps.
Voilà. Donc en gros, si vous voulez continuer à faire du jeu de rôle, devenez homosexuel et célibataire.
C'est pas. pourquoi homosexuel?
Putain, j'ai cru qu'il allait vraiment nous montrer son cul.
Si t'es célibataire, tu t'en fous de changer de sexe, hein.
C'est vrai.
Tes préférences.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je pense que je vais pouvoir envoyer le générique parce que là, franchement, je crois qu'on est en train de partir de n'importe quoi. Les T-Punch, ils assurent, hein, franchement. Ouais. En plus, je travaille demain, ça va être dur. Vous non, bande d'instit.
Excuse-moi. Ah non, demain, non.
Bande d'instit de merde. Ce podcast est sponsorisé par Clément, Rome Agricole. Dans environ 15 minutes, allez pouvoir écouter L'Apéro du Capitaine, qui est un super podcast, je vous le dis, j'en ai pas écouté beaucoup, mais le peu que j'en ai écouté, c'est génial à chaque fois. Ils ont un super invité ce soir, je sais plus c'est qui, parce que, mais ça avait l'air génial quand je m'en souviens. T'en moques pas de moi. Merci beaucoup de nous avoir écouté, merci beaucoup de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes encore 20 sur la chatroom, moi j'hallucine de voir qu'il y a autant de monde. On est monté à 26, franchement, sachant que, ne serait-ce qu'avec nos invités, enfin, moi je comprends pas, ouais. C'est un truc de dingue.
Moi j'aurais jamais imaginé il y a 2 ans, tu vois, quand tu m'as dit ouais on va se faire un podcast.
Je sais pas ce que t'as un podcast.
Je me suis retrouvé comme un con avec un casque et un micro devant, ouais vas-y parle de BD. Et deux ans après je fais toujours. Et voilà, donc c'est une super expérience et voilà, merci Pied de tout ce que tu fais, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux que j'ai rencontrés, au revoir.
Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Normalement il y a le générique qui va le lancer là, parce que je sais plus comment il se lance. Voilà, normalement il se lance doucement au début, comme ça on peut parler, faire de la voix off dessus, tu vois. Et après au moment le son d'instru, à la main fait ciao ciao. Et c'est vachement facile à placer sur le montage. Mais franchement en live, c'est un super bordel. Tu peux te dire, à un moment il y a un break. C'est le break qui nous dit au moment où on doit se fermer notre gueule. Donc là pour moi tu peux parler.
Voilà. Tais-toi,
non mais. Faut attendre le break pour fermer notre gueule. C'est le moment où on doit fermer notre gueule. Merci beaucoup d'être là. On a adoré vous avoir sur le chat. Merci à Monsieur Internet. Bravo!
Yeah.
Hey. Merci à tous.
ça va pas traquer tout seul, quoi.
Merci à Random Flag pour ces super illustrations. Je mettrai tous les liens dans le fichier du podcast.
Là, c'est le poids qui va pas s'en passer.
Bon, on va peut-être se lancer un peu des roms, là. Hein?